Bonjour à toutes et à tous. Il est 12h30 pile. Alors, je sais que quelques retardataires arrivent. Donc, voilà, je prends la parole quelques secondes, le temps qu'ils se mettent en place. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce premier rendez-vous de la saison culturelle de la Galerie Eureka, saison des Entre Midi et Science. Il y en a un par mois. Cette année, enfin, ce rendez-vous est croisé avec la programmation de la Fête de la Science, qui a débuté le week-end dernier, mais qui va trouver son point d'orgue ce samedi et ce dimanche au centre des congrès avec le village départemental des sciences, avec une trentaine de stands et une petite dizaine de conférences sur les 2 jours. Mais nous commençons dès à présent avec ce premier Entre Midi et Science, où on a voulu croiser la thématique de la Fête de la Science, à savoir le sport, puisque la France va accueillir plusieurs grands événements cette année et en début d'année prochaine, à savoir la Coupe du Monde de rugby que nous vivons en ce moment. Il va y avoir la Coupe du Monde féminine et il y aura également, on terminera avec les Jeux Olympiques d'été l'année prochaine. On voulait également croiser cette thématique avec ce qui nous avait animé l'année dernière, à savoir les problématiques autour du réchauffement climatique. Et donc, rien de mieux que de se poser la question sport et environnement. Donc, une vaste question. Nous avons d'un côté, on le voit bien, un été qui n'en finit pas et qui modifie déjà certaines pratiques sportives. Et on s'interroge même de savoir quand est-ce qu'on va rechausser des skis cette année. Ça, c'est peut-être un premier élément qu'on peut se poser. Et puis le second, on sait aujourd'hui que le sport et les clubs sportifs ne sont pas toujours vertueux en termes d'environnement et qu'il y a peut-être des choses aussi à faire de ce côté-là. Donc, on a la chance d'avoir. Alors, je ne vais pas vous écorcher votre nom, Johan Bouchet. Donc, vous êtes notre expert aujourd'hui. Vous êtes responsable de l'antenne Savoie et Haute-Savoie de l'association Football Écologie France. Et justement, c'est à vous qu'on va poser toutes ces questions autour du sport et de l'environnement. Alors, est-ce qu'on est hors jeu ou pas? Bon, c'est un jeu de mots assez facile, mais voilà, ça me permet d'introduire le débat. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les Entre-Midi et Sciences, nous sommes sur un format hybride, c'est-à-dire qu'on va laisser la parole à Johan pendant une petite demi-heure pour nous exposer un petit peu les faits et l'état de la question et de la problématique. Et ensuite, on gardera la seconde demi-heure pour justement échanger, débattre tous ensemble et surtout avec vos éléments de réponse. Voilà, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole et le micro. Comme c'est enregistré, parlez bien dans le micro. Merci beaucoup.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par me présenter rapidement et puis présenter l'association pour laquelle je travaille aujourd'hui. Vous allez très vite comprendre que les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui à travers le prisme du foot, c'est des thématiques qui sont finalement communes avec tous les sports, ou en tout cas une grande partie des sports. Donc, n'ayez pas peur, on va pas parler que de foot ce midi. Du coup, je m'appelle Johan Bouchet, j'ai 29 ans, je suis alternant exactement chez Football Écologie France, chez qui je prépare un deuxième master de développement durable cette fois-ci, puisque j'ai déjà obtenu en 2017 un master en marketing sportif. Suite à mon premier master, j'ai pas mal voyagé et du coup c'est un petit peu comme ça aussi que j'ai développé la fibre environnementale, ou en tout cas que je me suis posé des questions qui m'ont amené à revoir mon plan de carrière, ou en tout cas ma motivation à avoir un vrai impact dans ma carrière professionnelle. J'ai rencontré un petit peu par hasard l'association Football Écologie France. J'ai été bénévole pour l'association pendant 2 ans, puisque aucun club du territoire n'était engagé dans une thématique environnementale. Il a fallu, dans un premier temps, convaincre les acteurs du monde du foot en local de s'engager pour pouvoir créer l'activité et puis du coup créer mon emploi par la suite. Donc ça fait tout juste un an que je suis en alternance chez Football Écologie France. Et Football Écologie France, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une association qui est nationale et qui a pour mission d'accompagner le monde du football dans la transition écologique. Alors on aime bien dire le monde du football parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont concernés. On a différents niveaux d'action. Donc nous, on accompagne la fédération, par exemple, la Ligue de football professionnel aussi, qui gère le football professionnel en France. Mais aussi et surtout, ce qui est de notre ressort en tant que responsable d'antenne salarié sur tout le territoire, c'est d'accompagner les clubs du territoire, donc que ce soit les clubs professionnels ou les clubs amateurs, dans leur démarche environnementale, c'est-à-dire qu'on intervient à 2 échelons, on va dire principaux, c'est la sensibilisation. Donc on a développé et créé des outils de sensibilisation spécifiques au monde du foot et du coup un petit peu au monde du sport pour toucher plus facilement les publics qui sont souvent des publics assez éloignés de la question de la transition écologique. Et puis on a tout un programme d'accompagnement qu'on met en place quand un club nous rejoint et s'engage dans la transition écologique, sur lequel on va justement lui proposer des actions et faire en sorte que ces actions soient menées à bien du début à la fin lorsqu'on les met en place dans les clubs. Pour vous faire un petit état des lieux de l'association, aujourd'hui on est plus de 30 antennes en France, donc pour uniquement 8 salariés. Donc comme vous l'avez compris, il y a des antennes aujourd'hui qui fonctionnent uniquement avec des bénévoles. C'est une force et une faiblesse, puisque à la base on était tous bénévoles et on a réussi à développer l'association à tel point qu'aujourd'hui il y a beaucoup de partenaires qui se sont intéressés au projet, qui ont commencé à nous financer et qui nous permettent aujourd'hui de grandir d'année en année, de recruter des personnes sur des antennes un peu partout en France, l'objectif étant d'accompagner à terme l'ensemble des clubs français sur la transition écologique. Donc il y a encore du boulot, vous voyez, on est à environ 200 adhérents sur 14 000 clubs, il y a encore du boulot. Mais voilà, on est assez confiant parce qu'on constate quand même une ouverture d'esprit qui se crée au fil du temps. Je me rappelle de mes premiers rendez-vous quand je suis allé toquer à la porte des clubs en Savoie et Haute-Savoie. Très clairement, on m'a fait comprendre que l'écologie, ça n'avait rien à faire dans le foot. Et d'ailleurs, c'est souvent une des premières questions qu'on nous pose, c'est football et écologie, c'est quoi le rapport ? Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Mais voilà, pour dire qu'on a quand même des raisons d'être optimistes, même si aujourd'hui on n'a pas encore atteint la totalité de l'ampleur qu'on aimerait avoir. On sent quand même au niveau des mentalités une évolution et une ouverture d'esprit qui permet de croire que demain le sport français va s'engager dans la transition écologique. Voilà un petit peu comment on fonctionne. Dans un premier temps, on sensibilise, on active, on accompagne et on valorise. L'idée, c'est vraiment d'être là du début à la fin des projets pour faciliter le passage à l'action, notamment au niveau amateur. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui sont licenciés ou qui ont des enfants licenciés dans les clubs, mais il y a un vrai manque de moyens financiers ou humains parce que les bénévoles arrivent souvent à bout de souffle après quelques années parce qu'ils sont un petit peu surexploités, j'ai envie de dire. Et du coup, ramener des nouveaux projets, et en plus des projets qui sont souvent un peu éloignés de la thématique principale du sport, ça ne marche pas tout le temps. Donc il y a un vrai temps de sensibilisation qui est important et d'être force d'accompagnement, c'est-à-dire de faire des fois un petit peu plus que ce qu'on devrait faire pour encourager et finalement féliciter les clubs qui entament une démarche environnementale. Là, vous avez quelques-unes de nos parties prenantes avec qui on travaille. Donc, comme je le disais, c'est pas uniquement les clubs de foot. Il y a les instances, il y a les partenaires, il y a les collectivités. Pour prendre l'exemple de Chambéry, ça fait un an et demi que je travaille avec le SF Chambéry, donc qui est le plus gros club du territoire. Mais c'est que à partir d'aujourd'hui, il y a quelques semaines en arrière, qu'on a décidé de se rencontrer avec la mairie et de mettre en place finalement des tables rondes qui vont être à destination de tous les clubs de la ville. Et donc d'échanger sur la problématique et de voir comment l'ensemble des clubs et associations sportives de la ville peuvent s'engager dans la transition écologique. J'ai pas envie de revenir sur tous nos outils, mais voilà, on en a créé quand même quelques-uns qui sont très spécifiques au monde du foot. Et en fait, c'est avec le recul une vraie force. C'est une vraie force parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à ces outils-là qu'on arrive à sensibiliser des personnes qui sont très éloignées de la thématique. Que ce soit dans les villes, dans les QPV ou en zone rurale, il y a souvent des personnes assez éloignées de la thématique et c'est donc difficile de les approcher, de leur faire comprendre que à travers leur pratique du sport ou même leur façon de consommer le sport professionnel, ils ont un impact et qu'il y a des possibilités d'agir. Donc peut-être que je reviendrai très rapidement sur la fresque écologique du football, qui est notre outil principal et qui est l'outil qui fonctionne le plus. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de faire la fresque du climat, mais la spécificité de la fresque du football, c'est qu'elle est beaucoup plus ludique, beaucoup plus participative et du coup beaucoup plus engageante finalement pour les personnes qui le font. D'ailleurs, on le fait aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. La seule chose qui change, c'est la façon d'animer. Finalement, on va être un petit peu plus dans l'explication avec les enfants sur certains termes qui sont un peu techniques. Mais globalement, c'est un déroulé très ludique où on a deux équipes qui s'affrontent comme dans un match de foot. On marque des buts comme dans un match de foot. Il y a des moments de quiz où on parle uniquement de foot pour aussi faire en sorte que le message passe bien. Et puis, une différence aussi importante avec la fresque du climat, c'est qu'à la fin, il y a vraiment une partie de collaboration par équipe où l'objectif est de trouver un maximum de solutions justement pour agir personnellement ou pour que son club agisse dans la transition écologique à travers toutes les différentes thématiques qu'on a évoquées dans la fresque. Donc ça va être la gestion des déchets, l'alimentation, la gestion des énergies au stade, les transports, les équipements. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger un petit peu plus en direct tout à l'heure sur toutes ces thématiques. Mais justement, une des premières choses qu'on fait, c'est de faire en sorte que les gens se rendent compte des différents impacts, et ils sont nombreux, des différentes thématiques, et elles sont nombreuses là également, qui relient le foot, et du coup, de manière plus générale, le sport et l'environnement. Justement, il y a un rapport WWF qui est sorti il y a quelques années de ça, qui met en avant quelques chiffres assez intéressants. Bon, pour le coup, c'est pas uniquement pour le foot, mais qui permettent de bien se rendre compte finalement que le réchauffement climatique est dès aujourd'hui a un impact sur la pratique sportive. Pour prendre l'exemple du territoire, hein, ça fait 2 ans qu'il y a des entraînements et des matchs de foot qui sont annulés au mois d'août. Parce que des terrains en situation de stress hydrique, parce que des chaleurs qui sont vraiment déconseillées pour la pratique du sport en extérieur. Et comme vous pouvez le voir, ça concerne pas que le foot, et ça concerne principalement des sports qui sont très proches de chez nous. On parlait du ski tout à l'heure. Il y a un vrai besoin de se réinventer pour le sport en montagne, parce qu'on va perdre... qu'on le veuille ou non, là, vu la trajectoire actuelle des jours d'enneigement et donc des jours de pratique du ski et de tous les dérivés du ski. Donc, en effet, là, pour le coup, tout le monde est concerné. Et c'est pour ça que les associations comme Football Écologie France, il y en a d'autres. Les fresques écologiques du football, il y en a d'autres aussi. On a accompagné notamment le tennis et le rugby sur la création de leurs propres fresques. Puisqu'ils ont eu l'occasion de participer à nos fresques et ils se sont rendus compte que ça marchait bien. Donc voilà, moi j'invite et j'essaye de rencontrer un maximum d'associations sur le territoire, des associations sportives, mais aussi des associations environnementales qui ont un rapport très direct avec la nature voisine, avec les montagnes, puisqu'on a tout intérêt à être ensemble dans cette lutte et de faire en sorte que nos clubs, nos districts, nos ligues du territoire s'engagent pour la préservation de notre territoire à nous, puisque pour le coup, c'est ce qui nous concerne directement dans la pratique sportive. Je crois que je suis allé un peu vite. Mais du coup, je vais vous donner quand même quelques exemples d'actions qu'on a mis en place avec l'association et qui, pour le coup, sont parfaitement imitables dans tous les sports. Donc on a créé des affiches un peu spécifiques, alors là on voit pas très bien, mais sur les différentes thématiques justement que sont la gestion des déchets, la gestion de l'eau, les transports, pour sensibiliser lors des événements, donc que ce soit les matchs ou les tournois de fin d'année, puisque ça brasse quand même beaucoup de monde, de sensibiliser à l'impact du foot sur l'environnement. On collabore depuis un an et demi avec la Fondation de la Nature et de l'Homme, et cette année, en partenariat avec les forêts du sport français, on organise le 25 novembre une journée de plantation nationale pour toutes les associations sportives pour redonner un petit peu de visibilité et d'importance au réensauvagement de nos infrastructures sportives. Et du coup, l'idée, c'est qu'un maximum de clubs participent à cette journée pour justement montrer que le sport s'engage, et notamment sur la thématique de la biodiversité, qui n'est pas forcément la thématique la plus facile à traiter quand on travaille avec les clubs. Une photo de gourdes qui ont été fournies par des partenaires du club. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand on travaille avec une entité sportive qui a des moyens limités, qui a des moyens humains et financiers limités, il y a tout intérêt à faire en sorte que toutes les parties prenantes du club s'emparent du sujet et participent au sujet. Alors, ça a été le cas avec le club du GFA Rumi Vallière, pour le coup, où on a réussi à définir des projets et les faire financer par des partenaires. Du coup, déjà, on fait sauter le verrou économique, puisque le club n'a dépensé, si ce n'est l'adhésion qui rime à pas grand-chose, à l'association, 0 € pour l'ensemble des actions mises en place. Donc, il y a eu une journée de plantation où on a planté des arbres fruitiers qui ont été offerts par Thomas Leprince, entreprise locale qui fait dans le jus de fruits. Escoffier Recyclage qui a fourni les gourdes à l'ensemble des licenciés du club pour éviter un peu comme vous m'avez donné une gourde là, c'est pour éviter d'utiliser les bouteilles en plastique. On a co-créé des racks à vélo sur un club à Lyon pour justement sensibiliser et engager les licenciés à venir au stade en vélo. Vous pouvez voir la mise en place d'un collecteur de mégots, puisque c'est un fléau. Alors, je ne sais pas si vous aussi, dans vos sports, c'est un fléau. Mais en tout cas, nous, sur les infrastructures du foot, c'est le déchet numéro un qu'on trouve quand on fait des ramassages de déchets. Et puis, justement, pour rester dans la thématique déchets, tous les ans, on essaye de faire en sorte que nos clubs s'engagent pour le World Cleanup Day. Et c'est un petit peu la date de lancement de la saison sur laquelle on commence avec une action très simple, finalement très simple, mais en même temps qui a un impact vraiment très, enfin loin d'être anodin, j'ai envie de dire, parce que pour l'avoir fait avec plusieurs clubs cette année, les retours ont à chaque fois été très bons, les parents sont contents que les enfants s'engagent dans cette thématique-là, et puis justement cherchent à trouver des solutions pour aller plus loin. Le club de l'US Laravoir a eu une réflexion que j'ai trouvée très intéressante de dire « Ok, nous on veut bien faire des ramassages de déchets, on veut bien que les enfants participent au ramassage de déchets. Par contre, les enfants, ce n'est pas de leur faute finalement. Ce n'est pas eux qui polluent, ce n'est pas à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Et donc, comment on fait aussi pour sensibiliser et aller toucher les autres parties prenantes, du coup adultes du club, les licenciés seniors, etc. Et donc cette année, ils ont décidé de mettre en place quelque chose que je trouve très intéressant. Ils vont faire justement la semaine d'avant le 25 novembre, une semaine dédiée à l'environnement au club, où tous les jours, il y a une thématique qui va être traitée. C'est-à-dire que le lundi, il y aura la thématique de l'eau. Donc ils vont mettre en place une sorte de challenge pour faire en sorte que les personnes qui seront présentes au stade ce jour-là passent un minimum de temps sous l'eau. Le mardi, il y aura un atelier de sensibilisation à l'alimentation durable et responsable avec l'intervention de producteurs locaux. Et voilà, sur toutes les journées, ils vont faire une thématique particulière. Et en fait, la vraie valeur ajoutée de cet événement-là, c'est que le lundi, il va y avoir des enfants qui ont entre 8 et 11 ans. Le mardi, ça sera les adultes. Le mercredi, ça sera les adolescents et les adultes. Le jeudi, ça sera les tout-petits. Et le vendredi, ça sera à nouveau les adultes. Et du coup, l'idée, c'est que là, pendant une semaine, tout le club est touché par l'engagement écologique et tout le club est sensibilisé à ces différentes thématiques. On pourra en parler ensemble, mais j'insiste vraiment sur le fait que la sensibilisation dans le monde sportif, c'est primordial parce que y a beaucoup de personnes qui ne se rendent pas compte de l'impact du foot, en tout cas dans l'exemple de Football Écologie France. Mais quand on fait des fresques et qu'on annonce que tous les week-ends, c'est 3 millions de kilomètres qui sont parcourus pour la pratique du foot, donc que ce soit les supporters, les joueurs amateurs, les joueurs professionnels, etc. 3 millions de kilomètres, c'est environ 75 fois le tour du monde. Donc par week-end, juste pour la pratique du foot, en fait, on se rend vachement compte de l'immensité de l'impact du sport. Et encore que si on reprend à l'individu, le foot, c'est pas forcément le sport le plus polluant. Je pense à des sports qui sont pratiqués en piscine, des sports qui sont pratiqués avec des voitures, avec des avions. Enfin, il y a beaucoup de sports qui demandent un impact environnemental très important. Ce n'est pas forcément le cas du foot au niveau individuel. Par contre, on est tellement nombreux à jouer au foot ou à regarder le foot et à consommer du foot que finalement, l'impact est démultiplié et est très, très important. Donc voilà, le premier enjeu, c'est ça souvent, c'est de faire comprendre qu'il y a un double enjeu d'ailleurs, parce qu'il y a celui de réduire notre impact sur l'environnement et il y a aussi le fait de le faire pour l'environnement, mais pour nous, pratiquants du sport,
puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ben, si on continue sur la courbe actuelle, on va perdre plus d'une vingtaine de jours assez rapidement de pratique, donc c'est pas négligeable. Il y a aussi l'aspect du sport santé, finalement, qui est lié à cette thématique environnementale, puisque bah, que ce soit l'alimentation ou la gestion des infrastructures, il peut y avoir un impact sur la santé. Je pense au terrain synthétique, je pense à la façon dont on traite aussi les pelouses ou comment on entretient nos terrains de jeu. Tout ça, c'est des thématiques qui ont l'impact environnemental, mais également sur la santé. Il y a pas mal d'études qui ont été faites aux États-Unis qui ont prouvé l'impact très néfaste du terrain synthétique sur la santé des sportifs. Et voilà, c'est pour ça aussi que nous, on aime bien parler de transition écologique et solidaire, puisqu'il y a l'aspect social qu'on met beaucoup en avant, et le fait d'expliquer que bah, aujourd'hui, le foot, c'est un sport très social, très populaire, et que c'est aussi du coup une très belle porte d'entrée pour sensibiliser et communiquer des messages à des personnes qui sont, encore une fois, assez éloignées du sujet. Voilà, je crois que j'ai fait le tour assez le plus brièvement possible de la question de l'association Football Écologie France, de ce qu'on faisait. J'ai essayé de vous prouver que c'était pas uniquement une question de football, mais que tous les sports ont un intérêt à s'investir sur la question du développement durable. C'est pas facile, il y a pas mal de freins. Il y a des freins économiques, il y a des freins politiques parfois. Il y a des freins aussi humains, d'investissement humain. Donc voilà, c'est une thématique qui aujourd'hui est nouvelle, qui grandit. Que nous, on essaye d'accompagner le mieux qu'on peut, mais on se rend compte à travers beaucoup d'échanges avec différentes personnes, que ce soit des personnes dans les clubs, que ce soit des personnes grand public lors de nos événements, qu'on arrive à encore aujourd'hui trouver des solutions dans l'interaction, dans les échanges. Et c'est aussi pour ça que moi, j'étais très content de venir aujourd'hui, parce que je suis sûr que dans le temps d'échange qui est prévu juste après, on aura de belles façons de réfléchir et de pointer du doigt certaines problématiques ou certaines solutions auxquelles on n'a pas encore pensé. Parce que, encore une fois, c'est un sujet qui est naissant et donc il y a tout à faire, tout à construire.
Eh ben, merci beaucoup, Johan Bouchet, pour cette présentation claire et synthétique du sujet. Et comme vous l'avez dit, on va passer au temps d'échange. Donc le micro, je vais le passer, ça sera un peu le bâton de témoin, comme ça on ne parle que quand on a le micro, puis c'est surtout parce que c'est enregistré, donc ça permet de capter les échanges. Qui veut commencer par une première question?
Est-ce que vous avez l'occasion d'intervenir sur la conception du nouveau stade qui vient d'être inauguré à Chambéry?
Alors non, malheureusement, on n'était pas encore dans la boucle avec la mairie ou avec le club quand les projets ont été décidés. D'ailleurs, il faut savoir que sur ce type de projet, c'est des projets qui demandent beaucoup de réflexion en amont, et c'est des projets qui sont votés, là, pour le coup, il y a quasiment une dizaine d'années. Donc malheureusement, non, il est loin d'être parfait d'un point de vue écologique, mais de plus en plus, on accompagne les collectivités sur cette thématique-là, qui est très importante. Hein. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez intéressant qui se passe au niveau du gouvernement. Il y a beaucoup d'aides qui sont proposées pour la rénovation des bâtiments existants, des infrastructures sportives existantes, et qui visent à réduire justement l'impact de ces bâtiments existants. Mais malheureusement, pour Chambéry, ça n'a pas été le cas. Là, c'est compliqué. Mais au niveau des infrastructures, une fois qu'elles y sont, c'est compliqué. Par contre, on peut faire en sorte que l'utilisation de ces infrastructures soit un petit peu plus responsable. Et là, pour le coup, on va travailler avec la mairie sur comment faire en sorte que, maintenant que cette infrastructure est là, elle soit la moins impactante possible.
Bonjour. Je suis pas du monde du football, hein, donc. En tout cas, merci à la Galerie de Eureka d'avoir organisé ce temps d'échange et à l'association d'être un peu le témoin de ces différentes actions. Alors, que mes collègues du foot se rassurent, dans les autres clubs, dans les autres pratiques de sport collectif en France, la préoccupation que vous avez exposée là, on est proche du néant également. Hein. Je m'intéresse beaucoup à la thématique et en fait, pour résumer et caricaturer un peu le sujet, vous allez voir, je vais beaucoup caricaturer là, mais en fait, je pense que le sujet en mérite un petit peu qu'on mette les pieds dans le plat. En fait, dans les sports, dans les grands sports français, on ne s'intéresse pas au sujet et on crée des labels pour se donner bonne conscience. Voilà, je ferme la parenthèse à ce sujet. Donc voilà, que mes amis footballeurs se rassurent, c'est pareil partout. Par rapport à toutes les actions que vous avez exposées, voilà, bon, y a des choses à faire, bien évidemment, le tri, le déchet, enfin, y a plein de choses. Moi, je voudrais insister sur les déplacements. Alors là, j'ai été un peu effaré des 3 millions de kilomètres que vous avez exposés. Moi, je suis persuadé que 3-4 ans après, on est pareil. Je ne suis pas sûr que depuis 3-4 ans, la prise de conscience au niveau des fédérations ait eu lieu. Aujourd'hui, le sujet des déplacements, qui est un sujet qui devient très compliqué, notamment au niveau financier pour les clubs, hein, alors je ne parle même pas l'aspect écologique. Donc c'est peut-être ça d'ailleurs qui va faire bouger les choses. C'est parce qu'aujourd'hui, un déplacement coûte de plus en plus cher. Donc aujourd'hui, la responsabilité de tout ça, c'est les instances du sport, que ce soit les comités, les ligues, les fédérations, qui aujourd'hui vous pondent des championnats sans tenir compte des déplacements. Je ferai un petit bémol, peut-être le handball, qui est un petit peu meilleur que les autres à ce sujet. Je ne sais pas s'il y a des handballeurs, mais je trouve qu'ils ont fait des choses intéressantes à ce sujet. Les autres pratiques, je pense que non. Voilà, donc aujourd'hui, on balade les clubs tous les week-ends aux quatre coins de la France. Hein, et je ne parle pas de niveau de professionnel ou d'élite. Hein, je parle de petits championnats de Savoie où on fait des journées, on va à Bourg-Saint-Maurice, on va, voilà, alors qu'on pourrait très bien faire des secteurs géographiques, hein, bien évidemment. Alors, après, je ne dis pas la grande finale départementale de la fin de l'année, qu'on la fasse à Bourg-Saint-Maurice, c'est la fête, c'est autre chose. Mais tous les week-ends, voilà, vous avez des minibus dans tous les sports qui se baladent sur la VRU, il suffit de les compter, ça doit être assez instructif. Voilà, donc je pense que moi, la responsabilité, elle est au niveau des instances. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, alors je vais faire une deuxième caricature, les instances sont dirigées par des gens âgés, hein, qui n'ont absolument pas du tout la préoccupation de l'environnement. Ça, c'est un autre cliché, mais je suis désolé, mais c'est un peu ça quand même. Et qui ont la championnite aiguë, voilà, et qui font comme il y a 50 ans. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, leur demander de faire des poules géographiques, vous rendez compte. C'est... Alors qu'en fait, aujourd'hui, encore une fois, pour quasiment toutes les catégories ou tous les niveaux, je ne parle pas du championnat de France, des machins comme ça. Et encore, ça dépend, quand on parle de championnat de France, de N3 ou de première division, c'est quand même pas tout à fait la même chose non plus. Voilà, donc moi, je pense que le sport a beaucoup à faire. Et voilà, au-delà du tri, des choses comme ça qu'il faut faire, la problématique, elle est sur le transport. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Et encore une fois, si la tutelle, c'est-à-dire l'État, en fait, hein, l'État qui donne aux fédérations le droit de gérer un sport. Si l'État ne botte pas les fesses des fédérations, il ne se passera rien. Voilà.
Ça mérite peut-être déjà peut-être un élément de réponse et je vous donne tout de suite le micro dans la foulée.
Bah, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Hein. C'est un constat qui est véridique, qui est vrai pour beaucoup de sports. Alors, comme vous l'avez dit, le handball est peut-être un petit peu plus en avance sur la question. Le basket aussi essaye de mettre en place des choses. Mais c'est trop peu, c'est pas suffisant par rapport aux enjeux et aux besoins d'action rapide. Par contre, nous, justement, dans le cadre de ce qu'on fait avec la Fédé, c'est justement d'essayer de les emmener sur ces sujets-là, de les accompagner pour qu'ils mettent en place certaines choses pour réduire, en effet, le nombre de déplacements. Pour le coup, on n'est vraiment pas vernis en Savoie et Haute-Savoie, je parle au niveau du foot, hein, au niveau des institutions, parce que la problématique liée au fait que c'est des personnes qui sont là depuis 20-30 ans et qui n'ont pas forcément envie de bouger les choses, bah, ça aide pas à agir. Maintenant, on fait de notre mieux, nous, en tant qu'association, qui est censée représenter aussi le citoyen lambda, de faire pression sur la fédération et de les mettre en mouvement sur la question. Je pense pas que ça suffise. Je pense qu'en effet, une intervention de l'État est nécessaire. Mais je suis aussi assez persuadé, puisque je travaille dans l'assaut depuis un petit moment maintenant, que le pouvoir associatif, mine de rien, peut faire bouger les choses au moins sur certaines échelles. Et que bah, si toutes les régions et tous les départements de France commencent à se poser des questions sur ce sujet-là, peut-être que les fédérations de sport prendront en main le sujet. Voilà, il n'y a pas de certitude, mais nous, on fait tout pour pousser dans ce sens-là. Et c'est vrai que la thématique du transport est très importante. En plus de ça, nous, sur nos territoires, on a beaucoup de... Enfin, quand je prends la comparaison avec l'antenne de Lyon, qui est l'antenne principale, Aujourd'hui, quand ils font des déplacements à Lyon, c'est pas énorme. Nous, au niveau du foot, c'est très rapidement 50, 60, 70, 100, 120 km pour aller jouer le week-end. Et là, je parle de l'équipe que j'entraîne, qui c'est des U13. Donc ça donne un petit peu l'échelle quand on passe à des âges supérieurs et des niveaux supérieurs. Mais oui, clairement, il y a une vraie problématique à travailler. Aujourd'hui, il y a aussi des solutions qui naissent. Il y a des entreprises qui créent des applications dédiées à la pratique du sport ou dédiées au déplacement des supporters. Je pense à Stadium Go, à Popsleigh, qui sont des entreprises qui sont des partenaires de l'association et qui, justement, ont pour objectif de réduire l'impact des déplacements lors de la pratique et de la consommation du sport. Donc voilà, mine de rien, il se passe des choses. Ça prend du temps. Pour faire bouger les lignes au niveau institutionnel, j'ai envie de dire, c'est un petit peu aussi une caricature de l'administratif français, mais ça prend du temps. Donc il y a quand même aussi d'autres feux verts finalement qui s'allument. Je pense à la LFP qui a l'année dernière décidé de repenser la façon de distribution des droits télé. Et pour le coup, ça a bien marché puisqu'ils ont donné plus de critères, plus d'importance aux critères environnementaux pour la répartition des droits télé, du coup pour le monde professionnel du foot, je parle, hein, Ligue 1, Ligue 2. Mais il y a beaucoup de structures RSE qui sont montées dans ces clubs professionnels et il y a beaucoup de projets qui sont montés, beaucoup de collaborations avec des entreprises comme Stadium Go qui voient le jour grâce à ce moyen de pression justement financier de la Ligue. Donc voilà, on est loin d'être au bout du chemin, mais par contre, là aussi, sur cette thématique-là, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a un mouvement qui se crée.
Oui, bonjour. Alors, je voudrais réagir sur la question des transports. Moi, je ne suis pas du tout dans le domaine des sports collectifs. C'est des sports individuels et sports de montagne. En l'occurrence, tout ce qui est alpinisme, randonnée... vraiment sur le terrain, hors sport nature. La problématique aujourd'hui, c'est vraiment les déplacements. Alors, on a une partie des participants qui sont très peu concernés, enfin, qui se sentent très peu concernés et qui réagissent très peu sur ces questions-là. Et on a on commence à avoir une réflexion et des actions dans ce domaine-là. La problématique, c'est que c'est absolument pas pratique, facile à mettre en œuvre. Et notamment toute la question des transports en commun, parce que on fait déjà du covoiturage pour essayer de limiter le nombre de véhicules, tout simplement parce que quand on arrive au bout du chemin où on peut aller en voiture, y a peu de place, donc si on arrive avec 15 voitures, forcément on n'arrive pas à rentrer tous, donc on essaie de faire rentrer un maximum de personnes dans un minimum de voitures pour laisser de la place pour tout le monde. Mais ça reste de l'utilisation de véhicules thermiques. Donc la question, c'est les transports en commun. Et là, se posent des problèmes parce que quand on arrive à midi pour débuter une randonnée, c'est quand même un peu tard. Et il y a d'autres endroits où, tout simplement, il n'y a aucun transport en commun. Vous allez dans l'avant-pays savoyard, il y a d'excellents sites de grimpe. Le dimanche, vous y allez en voiture parce que vous n'avez pas d'autre solution. De la même manière, il y a toute une partie de la montagne qui, en dehors des périodes de vacances, en dehors des moments d'accueil des touristes, donc juillet, août et de décembre à mars, avril à la limite, ne sont pas accessibles autrement qu'en voiture individuelle. Voilà, donc ça, c'est une problématique. Alors, la logique vélo plus train, c'est bien, mais c'est pas forcément accessible à toutes les populations qui veulent profiter de la nature. Donc ça, c'est aussi un questionnement. Voilà. Donc la question des pouvoirs publics, effectivement. Alors l'État, oui, mais aussi il y a d'autres niveaux que l'État. Il y a tous les organisateurs de réseaux de transport. Alors, pour partir sur terminer sur une petite note optimiste, et je ne vais pas mobiliser le micro plus longtemps, donc au niveau du club alpin français de Chambéry, on a une équipe de jeunes, l'école d'aventure, et le défi qu'on s'est lancé, c'est d'être le plus éco-responsable possible. Donc on travaille sur les transports actuellement pour toute cette année. L'objectif, c'est vraiment le moins de carbone possible. Et donc, on a fait une première expérience, ça a été Chambéry-Chamonix, donc en transport en commun. Alors, pour la petite histoire, c'est 5 heures pour y aller, 5 heures pour revenir. En voiture, vous mettez 2 heures. Voilà, c'est ma conclusion. Merci.
Merci beaucoup pour cet éclairage et ce témoignage. Une petite réaction peut-être ?
Oui, une petite. Du coup, je vais faire le lien avec une expérience que j'ai vécue moi l'année dernière avec le club de foot de Rumilly, où là encore, il y avait une problématique par rapport au déplacement des jeunes scolaires sur le lieu de pratique. Donc, il y a deux sites à Rumilly. Donc, c'est le GFA Rumilly-Vallières. Il y a Rumilly et à Vallières. Et le stade de Vallières est un peu moins accessible pour les jeunes, et notamment en transport en commun, en vélo, c'est un petit peu dangereux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rapproché de la mairie, qui a un système qui s'appelle J-Bus, qui est le bus local pour gérer les déplacements dans la ville, et on leur a demandé d'organiser une ligne, ou en tout cas de réorganiser les lignes existantes pour que ça corrobore avec les contraintes des jeunes, donc ce qui sont des collégiens, des lycéens, et que ça puisse justement desservir les sites de foot en lien avec leurs horaires scolaires. Donc voilà, on a réussi à mettre en place quelque chose avec le foot. J'imagine qu'en allant demander un petit coup de main ou en allant à la porte des collectivités et en expliquant le problème, peut-être que vous aurez aussi la chance de mettre en place des systèmes de navettes ou autres, hein, peut-être qu'il y a plus adapté que ça. Mais l'idée, nous, on est vachement dans la co-construction et je suis sûr que les collectivités sont quand même de plus en plus réceptives à ces thématiques. Et que donc la porte d'entrée, elle est peut-être là, elle est peut-être de se rapprocher des collectivités et de co-construire des plans d'action très concrets pour mettre en place système de navettes, de covoiturage ou autre.
Moi, j'avais une question par rapport à est-ce qu'il y a des actions qui sont menées par rapport au marketing. Je précise, voilà, il y a souvent des sponsors qui donnent des goodies, par exemple, qui viennent de Chine, ou quand on s'inscrit à la moindre petite course populaire, on a un t-shirt polyester pardon, qui vient de Chine. Et par exemple, j'ai réagi à votre photo parce que on voit des gourdes qui ont l'air d'être payées par un sponsor. C'est vrai que les gourdes, c'est mieux que les bouteilles d'eau, mais le mieux, c'est quand on prend une gourde qu'on a séchée chez soi, pas quand on fabrique une nouvelle gourde.
Oui, bien sûr. Le problème, c'est que justement, les jeunes, et notamment les jeunes dans les clubs de foot, en l'occurrence là à Rumilly, c'est des jeunes qui n'ont pas de gourde ou très peu. Donc l'idée, c'est pas de leur en fournir une tous les ans non plus. C'est que, et on transmet le message en fait, le goodies, la gourde, il est intéressant uniquement si, comme vous le dites, elle est utilisée sur plusieurs années. Du coup, quand on offre les gourdes aux enfants, on leur explique la thématique, le pourquoi du comment ils ont eu la gourde aujourd'hui et à quoi elle leur sert et pourquoi. L'objectif, c'est que ils ont 8 ans, aujourd'hui, ils ont une gourde. C'est que quand ils sont en U15, dans 7 ans, ils aient toujours la gourde, quoi. Et donc voilà, ça s'accompagne aussi d'un message. Sur la partie marketing, et je pense aux sponsors un petit peu du foot professionnel, c'est des entreprises qui ont un impact souvent très important sur l'environnement. Il y a de plus en plus de mouvements citoyens qui se lèvent contre ces pratiques-là et qui aimeraient que les entreprises polluantes disparaissent finalement du monde du sport et en tout cas de la visibilité qu'offre le sport. Donc là, pour le coup, nous, on n'a pas encore de solution très concrète, mais c'est un sujet qui nous intéresse et on essaye de faire en sorte, nous, au niveau du local, d'être le plus cohérent possible. Je prends l'exemple de Cluses-Chionziers, la première année d'adhésion. Ils ont adhéré à l'association, ils ont voulu mettre en place des projets qui coûtaient de l'argent. Ils sont allés voir leurs partenaires pour faire financer des choses. Et McDo a voulu financer une journée de sensibilisation à l'alimentation responsable. Donc là, du coup, nous, on a clairement dit que c'était pas possible. L'action n'a pas eu lieu, parce qu'il n'y a pas d'autres sponsors intéressés. Enfin bref. C'est de ce niveau d'incohérence, mais c'est vrai au niveau amateur comme au niveau professionnel. Et pour finir avec les goodies, c'est quelque chose qui, j'espère, disparaît de plus en plus, ou en tout cas se réinvente. Je sais que la fédération organise tous les ans comment ils appellent ça, la rentrée du foot français ou un truc comme ça, où c'est des petits tournois, des petits plateaux un peu partout en France qui sont accueillis par des clubs dits clubs lieux de vie, donc qui sont labellisés justement par rapport à la qualité de leur infrastructure ou d'autres critères. Mais l'idée, c'est que pendant ces événements-là, l'année dernière, ils ont distribué, plutôt que de distribuer des stylos ou ce qu'on a l'habitude de voir, ils ont distribué des graines de fleurs à planter, donc dans des sachets biodégradables, etc. Donc voilà, ils ont essayé de faire des choses, ils ont essayé de prouver que c'était possible de réinventer, comme on le pouvait à son échelle, le marketing et l'histoire des goodies.
Moi, j'avais une question. Vous avez parlé de stress hydrique. Qu'est-ce qui fait pencher à un moment donné une grande agglomération, ça peut être Chambéry ou d'autres, qui veulent faire une grande infrastructure et qui partent sur un terrain plutôt synthétique qu'en herbe? Est-ce que c'est écologique, économique, politique? Qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'il y a des clubs, je crois qu'il y a le Racing hein, en rugby qui joue aussi sur du synthétique. Voilà. Qu'est-ce qui fait pencher la balance pour, à un moment donné, passer du synthétique au terrain en herbe? Voilà.
Alors ça, c'est une question qui est très complexe. C'est une question qu'on nous pose souvent et qui est souvent d'ailleurs la première qu'on nous pose quand on a affaire à une collectivité. C'est quoi le mieux finalement entre l'herbe, entre le synthétique, nouvelle génération, entre l'hybride, etc. Malheureusement, il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication et de solution, on va dire, on peut dire vrai à chaque fois. Ça va dépendre de plein de choses. Nous, on est sur un territoire quand même qui, sur les pelouses extérieures, qui souffre beaucoup l'hiver. Du coup, sur une pelouse classique, on va perdre potentiellement de la pratique. Il y a aussi la problématique liée à l'exploitation de ces terrains-là. Aujourd'hui, le nombre de joueurs grandit fortement et donc les besoins d'espace d'entraînement grandissent également. Et sur un terrain en herbe, quand on peut s'entraîner 3 ou 4 fois par semaine, un terrain synthétique, on peut multiplier par 3 ou 4. Donc il y a l'aspect de la pratique, il y a l'aspect des consommations d'énergie. Donc est-ce que arroser, alors ça je ne l'ai pas donné, mais je crois que c'est 2 ou 3 milliards de litres d'eau qui sont utilisés pour l'arrosage des pelouses de foot en France chaque année. Donc là aussi, ça représente la consommation de beaucoup de Français. En fait, il n'y a pas de vérité. Le truc qu'il faut se dire, c'est que quand on a une infrastructure qui est existante, eh ben, il faut l'exploiter de la meilleure façon possible. Parce que, par exemple, si on prend la pelouse naturelle, selon notre manière de la traiter, elle peut être beaucoup plus néfaste qu'un terrain synthétique. Inversement, un terrain synthétique qui est bien entretenu, qui est justement pas traité, qu'on n'entretient pas, peut être intéressant. Aujourd'hui, il y a des nouvelles solutions techniques qui commencent à émerger. Donc, il y a les terrains en synthétique avec du liège, avec des noyaux d'olive concassés, qui sont pour le coup plus écologiques, un peu moins économiques, ils coûtent un peu plus cher. Mais je sais que sur le bassin annécien, il y a 2-3 clubs de foot qui ont opté pour cette solution, qui ont des bons retours en termes de pratique. Maintenant, il faut voir si dans le temps, justement, elle permet un nombre de pratiques égal à celle du synthétique ou pas. Enfin, voilà, la thématique vraiment est très complexe. Il y a aussi des enjeux politiques très souvent, puisque la question de l'écologie est de plus en plus présente dans les débats politiques. Et du coup, sur ce type d'infrastructure, c'est tellement critiqué dans tous les sens, on entend tellement tout et son contraire que les politiques sont un petit peu frileux sur le sujet. Donc voilà, il y a plusieurs angles d'approche qui sont à prendre en compte quand on est dans cette réflexion-là. Nous, on n'a pas on préconise rien de particulier parce que la solution idéale n'existe pas. Maintenant, on s'est plus ou moins mis d'accord dans l'asso pour dire que dans le meilleur des mondes, c'est un terrain en herbe qu'on ne traite pas et qu'on arrose avec de l'eau de pluie récupérée. Et comptons à la main, en gros. Mais voilà, c'est dans le meilleur des mondes où il y a certains clubs qui font tondre les pelouses par des moutons, on a vu ça. Donc voilà, c'est possible aussi, mais ça, c'est dans le meilleur des mondes. Quand il y a besoin d'utiliser le terrain toute la semaine, trois fois par jour, avec des publics, quand il pleut, etc., c'est vite catastrophique. Donc voilà, ça, c'est dans le meilleur des mondes. Maintenant, il faut s'adapter à son territoire, à ses enjeux, aussi aux besoins des clubs.
Bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question, c'est encore par rapport au transport. On voit que c'est une grosse problématique, que ce soit pour le foot et puis pour tous les sports. Moi, je viens du ski de fond, puis c'est un gros problème, que ce soit pour amateurs et puis professionnels. Mais moi, je me demandais si le changement, il pouvait pas se faire plutôt par le haut, Je pense aux ligues professionnelles dans tous les sports, parce que c'est quand même ces ligues-là qui ont le plus gros impact au niveau de leur transport, et surtout qui a l'air de pas être encore, là je prends l'exemple du foot, pas encore très sensibilisé. Je pense à Christophe Galtier et Kylian Mbappé qui avaient bien rigolé quand on leur avait proposé de se déplacer en TGV. Pourtant, je pense que en Ligue 1, c'est là où ils ont quand même des très gros budgets, des moyens, et ce serait pas si contraignant pour eux de, je sais pas s'ils ont un match à faire à Nantes, de le faire en TGV, ce serait 2 heures de plus, ce serait possible. Et donc ce serait pour eux peut-être plus facile, et ça pourrait avoir des répercussions sur les ligues en dessous, puis plus régionales. Puis rien que pour l'imaginaire des jeunes pratiquants, quand tu vois que tes champions ils se déplacent autrement, qu'aussi sur leur transport personnel ils collectionnent pas des voitures de luxe, et qu'ils se déplacent plus en jet privé, en avion, en train, ça pourrait avoir des répercussions sur les ligues plus locales et régionales. Voilà. Donc je me demandais si ça pouvait pas plus se faire par le haut, qui est vraiment une grosse prise de conscience en haut.
Alors là, il y a plusieurs questions qui sont très intéressantes, donc merci de les poser. Il y a une dissonance et une déconnexion existante entre les professionnels et cette problématique. L'affaire de Mbappé-Galtier, c'est vraiment symptomatique du décalage et du monde dans lequel ils vivent, déconnecté justement de ces enjeux-là. Heureusement finalement que cette polémique a eu lieu, puisque nous elle nous a permis de faire avancer les choses. La Ligue aussi s'est mise en mouvement, puisque je crois que c'est à partir de 2025 ils ont interdit l'utilisation de l'avion pour tous les transports qui pouvaient être effectués par les clubs professionnels en moins de 3 heures, je crois, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on va être amené à réduire aussi les émissions du monde professionnel sur les transports grâce aux pressions faites par les ligues. Et je suis d'accord, c'est même à eux d'agir les premiers, à eux de montrer l'exemple. Je sais qu'en Espagne, en Angleterre, il y a déjà beaucoup de choses qui se font en partenariat justement avec les entreprises du train, par exemple, pour faciliter et éviter l'utilisation de l'avion. Je rebondis aussi très rapidement avec cette déconnexion du monde professionnel finalement et les réalités finalement de tout le monde. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais on pensait avoir touché plus ou moins le fond avec la Coupe du Monde au Qatar, et ils ont annoncé que la prochaine ça serait un peu en Argentine, un peu en Uruguay, un peu au Maroc, et puis un petit peu au Portugal, en Espagne. Comme ça c'est vraiment tout localisé au même endroit, c'est super. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a je pense des enjeux politiques et économiques tellement importants que ça prendra du temps pour bouger, malheureusement. Et puis pour finir avec l'aspect ambassadeur, ou en tout cas idole pour les jeunes, et pour justement faciliter le changement de compréhension et d'engagement sur le sujet, nous on travaille, on essaye de travailler en tout cas sur ce volet là puisqu'en effet c'est identifié. Si demain Mbappé, plutôt que de faire le con et de rigoler quand on lui parle de son impact environnemental lié au transport, il s'engage vraiment, il en parle, et il dit que il a décidé de plus venir à l'entraînement en voiture parce que c'est faisable en vélo ou en transport en commun, là l'impact il est énorme, il est inverse, mais il est énorme. Du coup nous on travaille vraiment là-dessus, on espère là dans pas longtemps officialiser une collaboration avec Raphaël Varane. Donc pour le coup, qui est quand même un grand joueur de foot, parce qu'on en a des joueurs ambassadeurs, mais c'est des joueurs de Ligue 2 la plupart du temps, ou nationale, du coup, qui n'ont pas une visibilité énorme. Et c'est vrai que nous, on a une vraie ambition de faire en sorte que ces personnes-là prennent la parole et se montrent exemplaires, parce que c'est pas le cas, malheureusement, de beaucoup de footballeurs, et il y en a beaucoup qui n'en ont rien à cirer, clairement, pour dire les choses concrètement, du réchauffement climatique. Mais il y en a quelques-uns qui commencent à s'intéresser à la question, à s'investir. Varane, pour prendre l'exemple de Varane, qui joue en Angleterre et qui est originaire du nord de la France, prend jamais l'avion pour rentrer chez lui, par exemple. Donc voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais si on mettait plus en avant ce genre de comportement plutôt que le ricanement de Mbappé, en effet, l'impact auprès des jeunes est justement... J'ai pas envie de dire que des jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'adultes qui suivent le foot professionnel et qui prennent les joueurs de foot comme des exemples. Il y a aussi les institutions qui sont pas insensibles à ce que font et ce que disent les joueurs de foot. Il y a les marques aussi qui s'intéressent de plus en plus à la visibilité que peuvent offrir les sportifs. Et donc voilà, c'est d'autant plus de canaux possibles à exploiter pour faire en sorte que le monde du sport bouge.
Bonjour, déjà merci pour l'exposé. Alors, on sait que. Alors, moi, je suis issu des sports de nature, donc pas du tout sport co, choses comme ça, mais. Alors, on sait que le foot, bon, il a une puissance de feu, qu'une asso comme ça n'existe, je crois, que dans le foot. J'ai pas eu.
Aujourd'hui, oui.
Ouais, aujourd'hui, oui. Alors, moi, la question que je me posais, est-ce que, du coup, cette thématique de l'environnement, de l'écologie, qui est dispensée auprès des jeunes, dans les clubs, auprès des élus, mais est-ce que vous intervenez sur le monde de la formation et notamment des cadres? Parce qu'au final, alors cadre bénévole ou cadre d'État, hein, peu importe quoi, encadrant.
Ouais. Alors, bonne question. Et en effet, c'est un des enjeux d'ailleurs prioritaires quand on accompagne un club, c'est de faire en sorte que bah, les encadrants, que ce soit les éducateurs, les dirigeants, se sensibilisent ou en tout cas aient des clés de compréhension sur la thématique. C'est aussi une stratégie de développement qu'on a identifiée dans le sens où de plus en plus on va présenter l'association, on va faire des fresques écologiques du football, on va montrer l'enjeu sport-environnement dans les écoles qui forment finalement les acteurs du monde du sport de demain, les acteurs professionnels j'entends. Aujourd'hui on a des partenariats qui se nouent avec des écoles comme Win Sport School, comme Amos, qui sont des écoles qui sont destinées à produire les managers ou en tout cas les responsables sportifs dans les institutions sportives de demain. Et du coup, bah, qu'ils aient cette formation-là, ça peut en effet changer la donne dans le futur et c'est même primordial. Moi, pour le coup, je suis issu de mon premier master, je l'ai fait chez Amos. Et pendant 2 ans, je n'ai jamais entendu parler d'éco-responsabilité dans le sport. Et au contraire, c'était un peu catastrophique notre façon d'imaginer et de concevoir le sport de demain. Et du coup on intervient et on a identifié et on espère faire bouger les choses grâce à la formation des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs qui seront les acteurs professionnels du sport de demain parce que ça passe en effet par là.
Bonjour, merci. Bon, la bonne nouvelle peut-être c'est que si tout va bien à l'Université de Savoie d'ici l'année prochaine il y aura un diplôme universitaire sport et environnement climat qui devrait je l'espère être confirmé bientôt mais en tout cas qui est à destination des décideurs du sport. Donc vraiment l'idée là, c'est d'aller chercher les décideurs du sport qui sont déjà en poste dans les entreprises, dans les collectivités, dans les clubs, etc. pour qu'ils puissent revenir dans le même poste, mais avec des clés de compréhension au regard du climat. Et juste pour recadrer un petit peu sur la question du transport, donc évidemment le transport, c'est le secteur d'émissions carbone premier dans le sport. On est tous concernés en termes de pourcentage parce que finalement, le transport représente à peu près 80% de l'empreinte carbone que ce soit pour l'activité du quotidien, que ce soit pour un événement sportif local ou pour une Coupe du Monde au Qatar. En pourcentage, c'est toujours le transport qui représente à peu près 80%. Donc ça permet de se rendre compte que bon, on est tous plus ou moins responsables, en tout cas sur le point du transport. Et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, parce que là on a réfléchi à l'échelle individuelle, à l'échelle du joueur ou de l'athlète. Mais quand on parle de transport, il faut surtout, enfin aussi et surtout intégrer le nombre de staff, le nombre d'organisateurs. Et quand on parle des grands événements sportifs, eh ben, l'extrême majorité de l'empreinte carbone, ce sont les spectateurs. Et alors, ce n'est pas du tout le cas pour des petits sports comme l'escalade, le ski de fond, l'escrime, où effectivement, il n'y a que des athlètes et du staff. Mais en tout cas, pour tout ce qui est gros sport, la question, elle est vraiment, mais tu le sais très bien, hein, mais c'était pour recadrer un peu autour des spectateurs. Et on est tous directement ou indirectement spectateurs. Donc, on est tous responsables aussi là-dessus.
Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que la thématique autour des supporters, c'est quelque chose qu'on a également identifié. On essaye de développer une notion, alors pour le coup au niveau du foot, mais qui, on l'espère, sera plus globale et englobera justement tous les sports. C'est la notion d'éco-supporterisme. Donc on essaye de diffuser cette pratique et ces bonnes pratiques auprès des supporters en leur donnant des clés, en leur montrant qu'il est possible d'agir dans leur façon de consommer le sport. Et donc ouais, c'est vraiment très important et ça rejoint finalement la problématique de l'ambassadeur. Si demain on a des joueurs qui ont une visibilité extraordinaire, qui commencent à s'engager personnellement et publiquement sur la question de la transition écologique, on peut être sûr que les comportements dans les stades risquent d'être affectés. Enfin, en tout cas, moi perso, je me rappelle il y a encore quelques années de ça, quand j'étais vraiment un gros fan de foot et que je suivais mon équipe, bah, le moindre changement, le moindre truc inhabituel, ça me marquait, ça me faisait réfléchir. Et du coup, le fait que les clubs de foot professionnels et du coup les joueurs s'engagent sur ces thématiques-là, on espère aussi justement que ça va ricocher sur les supporters, puisque en effet, c'est, en tout cas au niveau professionnel, c'est eux qui représentent la majorité de l'impact.
Il nous reste éventuellement la place pour une petite question avec une petite réponse. Bon, alors je m'y colle. Quel est le niveau d'engagement du ministère des Sports? Parce qu'on s'est rendu compte que vous avez abordé la base hein, de ceux qui pratiquent une activité sportive et on voit que certains sont quand même très engagés. On a parlé des clubs, on a parlé des collectivités, on a parlé des sponsors, mais finalement, le ministère qui va donner un petit peu le là, où en est-il et quels sont ses liens avec le ministère de l'écologie sur ces problématiques?
Eh ben, c'est parfait puisque ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler d'un outil très intéressant qu'on a sorti et qui du coup a été construit avec ou en tout cas approuvé par les deux ministères que vous avez évoqués. Donc le ministère des Sports et le ministère de l'Écologie nous a permis entre autres de sortir un outil qui s'appelle qui est un e-learning et qui s'appelle Football et Transition Écologique et qui permet à tout un chacun de se former gratuitement sur la question du développement durable dans le foot et du coup de manière plus générale dans le sport avec plusieurs vidéos, plusieurs interviews, plusieurs chiffres comme j'ai pu en donner quelques-uns. Et du coup, on espère que cet outil sera utilisé pour sensibiliser un maximum de personnes. Je pense, en tout cas de l'expérience que j'en ai eue de mes contacts avec le ministère des Sports sur la question, qu'il y a un intérêt grandissant. Alors on va sûrement le voir à travers les Jeux Olympiques, mais le ministère des Sports commence à prendre conscience de l'impact du sport sur l'environnement, commence à mettre en place différentes actions. Je sais qu'il y a un budget notamment assez intéressant lié à l'appel à projet Impact 2024, qui nous a permis nous, de bien nous développer d'ailleurs, et qui va permettre d'inclure, on l'espère, justement la thématique de l'écosupporterisme, en tout cas de l'implication du sport de manière très générale sur la question de la transition écologique. Donc, il y a quand même quelques éléments qui laissent à imaginer que le ministère des Sports n'est pas insensible et commence à se pencher sur la question.
Il doit rester. Alors, comme il reste 2 minutes, j'en prends qu'une sur les deux.
En 2 secondes, c'était l'occasion aussi de faire la pub un petit peu d'un outil qui s'appelle Coach Climat Événement, qui a été développé, en collaboration entre le CNESF. Le ministère des Sports et Paris 2024 et qui permet à tout organisateur d'événements sportifs de mesurer son empreinte carbone de son événement, que ce soit un petit tournoi local ou un championnat de France. Dans les deux cas, ça marche. J'ai beaucoup travaillé dessus, donc je le plébiscite et ça permet vraiment d'avoir les ordres de grandeur et de savoir comment réduire après pour peu qu'on en ait vraiment envie.
Oui, donc c'était. Alors là, je change de casquette. C'était pour répondre à la question, parce que je travaille en service déconcentré du ministère des Sports. Donc effectivement, il y a à peu près une dizaine d'années de ça en arrière, on avait dans chaque service un responsable développement durable, enfin un chargé de mission sport de nature développement durable. Ça a été un peu laissé de côté ces dernières années pour faute de budget, par remaniement ministériel. Mais voilà, je pense qu'il y a des indices qui sont en train de faire en sorte que cette thématique, elle devrait revenir au premier plan, et notamment par rapport à l'attribution des subventions.
Ouais, voilà. C'est un véritable
levier. Il y a des petites choses qui devraient peut-être déboucher par rapport à ça. Voilà, voilà. Néanmoins, il y a aussi des choses qui ont été mises en place sur les éco-manifs. En Savoie, c'est le cas. Voilà, c'est une collègue qui s'occupe de ça, donc... Il y a des choses, mais je pense que c'est un domaine où il faut mettre tout le monde autour de la table pour creuser et aller un petit peu plus loin que les gobelets en plastique. Ouais. Voilà, merci.
Complètement. Complètement d'accord.
Comme il reste 2 minutes, Johan, je vais vous laisser le mot de la fin pour conclure. Et puis finalement, quel est le message principal que vous voulez que l'on garde à l'issue de ce café scientifique?
Alors, j'avais pas forcément anticipé un mot de la fin, mais du coup, ce que je dirais, c'est L'idée, c'est de répandre la thématique, de faire comprendre aux utilisateurs, aux pratiquants des infrastructures sportives, et du coup, ceux qui n'en utilisent pas puisqu'ils vont directement en montagne, mais de faire comprendre à tout le monde qu'il y a un vrai double enjeu et qu'il y a un vrai intérêt de se questionner sur notre façon de pratiquer le sport ou de consommer le sport, puisque demain, on sera ou nos enfants seront impactés par notre non-action et que du coup le sport c'est aussi un véritable vecteur ou en tout cas il a un vrai pouvoir de changer les choses parce qu'il a recours à l'affect, à la passion et pour faire passer des messages c'est souvent ce qui marche le mieux. Donc voilà, le sport c'est un des coupables du réchauffement climatique, mais c'est aussi nous on pense un véritable pouvoir de réponse à ce qui est en train de se passer et notamment au niveau, on va dire, citoyen de changement des mentalités sur la question de la transition écologique.
Yoann Bouchet, merci infiniment pour la qualité de ce café débat. Merci aussi à vous pour justement ces échanges qui ont été vraiment bien nourris. Simplement quelques infos, on est dans le cadre de la fête de la science, hein, donc le sport donc est à l'honneur pendant toute la semaine et en particulier ce week-end. Alors je vais pas vous égrener le programme qui est très riche. Un coup de cœur peut-être, c'est samedi soir à 18h où là on va parler de femmes et de sciences. Et donc avec un plateau, ça va être un café débat avec un plateau très important et très riche. Donc ben, je vous invite à prendre le programme et de le regarder en détail. Non, samedi soir. Ah oui, et puis ce soir, alors Science Animation, Science Action organise, ben, je passe la parole pour le...
Bah, sur avec un café débat ce soir, voilà, comment la science améliore les performances sportives.
Et il y a une bande dessinée en bas, vous verrez une bande dessinée qui est écrite par le LIBM, justement pour montrer un peu les travaux des doctorants. Enfin voilà, il y a un programme extrêmement riche donc que je vous invite à découvrir. Eh ben écoutez, merci à vous tous et puis à très bientôt.
Merci à vous.